Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous la raconte chaque soir sur RTL et l'on vous emmène justement ce soir dans les secrets des cyberattaques. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'était le 10 mars 2024.
Panique dimanche soir et hier dans plusieurs ministères.
Les mails ne passent plus, ça communique plus. On arrive à échanger par SMS en mode dégradé.
Des cyberattaques d'une intensité inédite ciblant Matignon, des ministères et des sites internet comme celui du Conseil d'État ou des journées du patrimoine.
Trois jours plus tard,
43 millions de Français potentiellement touchés par une nouvelle cyberattaque.
Et cette fois-ci, c'est France Travail, ex-Pôle emploi, qui a été visé par les pirates informatiques trois jours seulement après les services de plusieurs ministères.
Matignon, les ministères de l'économie, de la culture, de la santé, de la transition écologique, la direction de l'aviation civile, puis France Travail. Il y a une semaine, la France était victime d'une vague de cyberattaques d'une ampleur sans précédent. 800 points administratifs visés dans le même temps. Les données de 43 millions de personnes potentiellement dérobées. Notre pays est devenu une cible privilégiée. Alors comment expliquer cet état de fait? Qui sont ces criminels insaisissables et comment opèrent-ils? Plongés dans la cybercriminalité ce soir avec nos invités. Jérôme Biot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en cybersécurité chez Wavestone et vous êtes auteur d'un livre qui est super intéressant et qui explique beaucoup de choses. Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale que l'on retrouve aux éditions Hachette. Une menace mondiale qui s'attaque à la France, peut-être particulièrement en ce moment. Je vous demanderai dans un instant si effectivement c'est un état de fait et si nous sommes devenus une cible privilégiée, surtout pourquoi. À nos côtés, Damien Bancal. Bonsoir Damien Bancal.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de cyberintelligence. Vous êtes fondateur du blog Zataz.com. C'est un site web d'information qui traite principalement de la délinquance informatique et l'on vous entend régulièrement sur RTL aux côtés de Julien Courbet. Avant d'expliquer justement pourquoi la France semble être dans le viseur en ce moment de la cybercriminalité, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'il s'est passé, Jérôme Biot, concrètement, en fait, en l'espace de trois jours seulement?
Il y a eu deux attaques marquantes, effectivement. En quelques jours, mais des attaques qui n'ont rien à voir sur le fond. La première attaque, c'était une attaque qui visait à saturer, à paralyser des sites gouvernementaux. C'est celle qui a donc été relevée par Matignon. Et on a une deuxième attaque qui, là, cette fois-ci, c'est un vol de données. Donc là, des pirates ont réussi à rentrer dans les systèmes, à capturer des données, à repartir avec. Et c'est ce qui a touché France Travail dans la fin de la semaine dernière.
D'accord. Les conséquences concrètes de ces attaques, est-ce qu'on les connaît réellement, Damien Bancal?
Alors, les conséquences pour, par exemple, un ministère se retrouver bloqué, c'est ne plus pouvoir communiquer parce que les serveurs sont totalement saturés de fausses informations, de faux internautes. Pour ce qui est une fuite de données, mais par le vol, par des pirates informatiques, c'est malheureusement plus dramatique, parce que surtout, là, ça va toucher, par exemple, des particuliers, des travailleurs, des demandeurs d'emploi qui se retrouvent potentiellement avec leurs données personnelles dans des mains malveillants qui pourraient les exploiter ensuite dans 6 mois, 1 an, 2 ans.
Donc ça veut dire des données bancaires, des numéros de sécurité sociale, enfin voilà, tout ce qui concerne notre vie personnelle qui peut être effectivement aux mains des cybercriminels. Le contexte géopolitique actuel, la guerre en Ukraine, la position d'Emmanuel Macron justement dans ce conflit, l'élection en Russie, est-ce que ça peut expliquer la vulnérabilité de la France actuellement et des attaques d'une telle ampleur, Jérôme Biot?
Alors l'explication de la vulnérabilité, elle est certainement ailleurs. Par contre, l'explication de l'actualité d'attaques, on peut voir clairement, oui, en particulier sur celle qui a touché le gouvernement. Elle a été revendiquée et organisée préalablement par un certain nombre de groupes. On peut parler d'Anonymous Soudan, de Noname 057. Derrière ces noms abscons se cachent finalement des groupes d'activistes qui, depuis des années, pour la plupart, certains plus récemment, sont là pour défendre l'idéologie russe.
D'accord.
Et puis, finalement, pour nuire aussi à l'image de ceux qui sont contre cette idéologie, au premier rang desquels la France.
D'accord. Donc, ça veut dire, en fait, qu'on a affaire à des hackers islamistes pro-russes, en règle générale, dans les deux attaques là, qu'on a subies, Damien Bancal?
Ah, on a affaire un petit peu à une constellation d'un peu tout et n'importe quoi. Alors on a effectivement des pirates informatiques qui ont des idées soit de protection de leur religion, soit géopolitique, ou tout simplement du business. Un exemple très concret, au moment où je vous parle, le même groupe de pirates informatiques, le fameux Anonymous Soudan, propose une réduction pour lancer une cyberattaque sur qui on veut pour 2 500 $ par mois.
J'ai pas compris, c'est-à-dire que moi, si je veux une réduction, c'est-à-dire de leur tarif, c'est-à-dire que moi, je peux les payer pour organiser une cyberattaque contre Céline Bonnet, la productrice de cette émission.
Mais complètement, et en plus, ils vous proposent pour 30 $ un petit test pour juste prouver qu'ils sont capables de le faire. Donc, en plus, derrière, il y a cette espèce... Ils font clairement leur pub pour leur cyberboutique, pirate.
Mais elle est où leur cyberboutique, Jérôme Biwa, là? Parce que là, on va dans le dark web, là. Parce que si vous me dites qu'en plus de ça, les mecs, ils sont en train aujourd'hui de paralyser Matignon, certains services publics en France peuvent aussi me proposer leurs services, c'est tout un autre monde, qui s'ouvre à nous.
Oui, il faut bien séparer plusieurs choses. Il y a des groupes, finalement, de cybercriminels qui sont vraiment là pour gagner de l'argent, et malheureusement, ils en gagnent beaucoup, et ils fournissent effectivement des services clés en main sur Internet qu'on peut acheter en allant sur le dark web.
Ah, c'est le dark web. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que c'est la partie d'internet qui n'est accessible que pour les escrocs de vol.
Alors, qui est accessible à pas mal de monde. Il suffit de savoir comment on y va. Ce sont des sites en fait dont on ne peut pas connaître facilement la localisation et donc qui sont des sites qui sont très difficiles à arrêter. D'accord. C'est bien pour ça qu'ils se mettent dessus pour vendre des services qui effectivement sont illégaux. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que on parle d'Anonymous Soudan. C'est connu à la base pour être un groupe d'activistes, donc plutôt des attaquants qui sont là pour se faire connaître, se faire passer leur message. Et quand Anonymous Soudan annonce des réductions comme ça de l'utilisation de leurs outils, c'est justement pour qu'on en parle. Oui. C'est pour qu'on parle d'eux. Parce qu'ils ne sont pas connus pour être dans cette logique de vraiment financiarisation de leurs services. Usuellement, ils sont plutôt dans des logiques des forces de l'islam, des forces de la Russie. Mais ce groupe est un espèce d'imbroglio et d'amas de différents angles dont il est bien difficile de tirer quelque chose.
Ça n'est pas la première fois, Jérôme Biwa, qu'Anonymous Soudan agit en France et sévit en France.
Non, ils sont créés, ils sont créés publiquement à partir de janvier 2023. Il y a eu plusieurs opérations. Ils ont commencé par faire des opérations de cyberattaque dans les pays nordiques en lien avec des publications autour du Coran. Ils ont aussi attaqué Charlie Hebdo quand il y a un certain nombre de caricatures qui avaient été republiées. Voilà. Mais ils ont aussi été très réactifs et très en lien avec tout ce qui touchait à la Russie. Voilà, on est vraiment sur un groupe d'acteurs multiforme, dont il est bien difficile de définir exactement ce qu'ils sont. Tous les faisceaux, quand même, convergent pour montrer qu'ils sont là pour soutenir l'action de la Russie.
Bon, messieurs, vous restez avec nous. Damien Bancal, Jérôme Biwa, parce que vous êtes nos meilleurs amis ce soir, parce que c'est un peu comme de pénétrer le dark web. Il y a certains de nos auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Eh bien, nous, la cybercriminalité, elle nous échappe, même si notre groupe en a été victime en 2019. On y reviendra au cours de cette émission. On se retrouve tout de suite. On va voir, justement, comment ces groupes agissent. Qui sont-ils? On est très loin du hacker avec un maxi coca, une maxi frite dans un garage ou dans un grenier. On est bien d'accord que là, maintenant, ça s'est professionnalisé. On va vous raconter tout ça sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On dit que la France est une cible privilégiée en matière de cybercriminalité en ce moment, qu'elle est depuis quelque temps littéralement submergée par les cyberattaques. Pourquoi? C'est la question que je pose ce soir à nos invités, que sont Jérôme Biwa. Alors, je vous appelle Biwa, je vous appelle Biwa, mais c'est avec votre accord, puisque même dans votre famille, en fait, on ne sait pas véritablement comment prononcer votre nom.
Tout à fait.
Voilà,
tout
donc on n'aura pas à m'écrire à jour J pour me dire non mais choisissez la façon dont il faut prononcer le nom de famille de Jérôme, donc on peut dire les deux. Vous êtes expert en cybersécurité chez Wavestone. C'est quoi Wavestone?
Wavestone, on a un cabinet de conseil créé en 1990, aux racines vraiment françaises, comme son nom ne l'indique pas, mais qui aujourd'hui s'étend à l'échelle internationale. Wavestone, c'est 6000 personnes en tout. On aide beaucoup les grandes entreprises sur plein de sujets et on en a 900 sur la cybersécurité. On essaye de faire au maximum de la prévention et on intervient aussi en réaction quand il y a des cyberattaques pour aller aider les entreprises qui sont touchées.
D'accord, parce qu'évidemment, les entreprises ne sont pas forcément préparées à ce genre d'attaque. À vos côtés, Damien Bancal, qui est journaliste spécialiste des questions de cyberintelligence et vous êtes fondateur du blog Zatas.com. On a quand même l'impression, Damien Bancal, que ça va très très vite. Selon une étude menée par Statista, les cyberattaques en France ont coûté 93,5 milliards de dollars en 2023. On les estime à 129 milliards de dollars en 2024. Ça veut dire quoi ça, Damien? Ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à contrer ce type de criminalité, que finalement les pirates sont plus malins que ceux qu'ils attaquent?
Alors, plus malin, je ne sais pas, mais ils ont toujours malheureusement ce petit temps d'avance dans cette espèce de course du chat et de la souris. Hein. Et la problématique aussi, c'est que on est ultra connecté aujourd'hui. On a de l'information, on diffuse de l'information dans tous les sens, parce qu'on nous le demande pour l'administration, nous le demande pour une association, nous le demande pour le cinéma, que sais-je encore. Et donc, les pirates informatiques ont compris que face à toutes ces données, il y a de l'argent. Mmh. Parce qu'elles se revendent, ces informations. Donc, ils vont tout faire pour tenter de les intercepter.
Jérôme Billois.
Oui, aujourd'hui, on est clairement en retard sur la cybersécurité. On est face à un sous-investissement depuis 10 ou 15 ans sur ces sujets.
Financiers, de recherche.
En compétences, en recherche. D'accord. Aujourd'hui, heureusement, ça change. Je peux vous faire un parallèle qui est intéressant. C'est aujourd'hui, la sécurité du numérique, en fait, c'est un peu la situation de la sécurité de l'automobile dans les années 1960-1970. Quand vous achetiez une voiture à cette période-là, ben, la ceinture de sécurité, c'était une option. Il fallait aller au garage, faire ajouter la ceinture, ça vous bloquait la voiture deux jours et il fallait que vous payiez de l'argent pour avoir votre ceinture. Ben aujourd'hui, c'est pareil. Vous achetez un ordinateur, vous achetez des logiciels. Il n'y a pas toujours la sécurité qu'il faudrait. Et donc, il faut payer pour la rajouter. Il faut des gens et tout le monde ne paye pas. Et tout le monde n'a pas les compétences pour le faire. Donc, il faut vraiment qu'on transforme le numérique pour qu'il soit sécurisé par défaut et qu'on arrive à bien bloquer tous ces criminels qui en profitent aujourd'hui.
On le disait, la France est une cible privilégiée pour un contexte géopolitique qu'on a raconté en début d'émission. Mais est-ce que sa vulnérabilité et cette longueur de retard, justement, qu'elle a, n'explique pas aussi le fait qu'elle soit submergée aujourd'hui, puisqu'on entendait Damien Bancal dire qu'il y a aussi beaucoup d'argent à se faire?
Oui, oui, bah clairement, la criminalité a bien vu l'intérêt. Les États aussi ont bien vu l'intérêt pour espionner. La France est dans une situation qui n'est pas toujours réjouissante. Il faut voir que c'est à peu près la même chose à l'échelle mondiale.
D'accord.
Même les États-Unis, dont on vante toujours l'avance sur le numérique, vous pouvez regarder le nombre d'hôpitaux qui ont été attaqués, qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont des problèmes de remboursement de leurs frais de santé parce que le système qui fait ça est par terre à cause d'une cyberattaque. Les stations-service étaient fermées à un moment. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de pays qui soit immunisé face à ce risque aujourd'hui. C'est vraiment une course pour tout le monde pour avancer.
D'accord. La cybercriminalité, Damien Bancal, elle a plein de visages différents. Vous avez parlé des hôpitaux il y a un instant, Jérôme, on y reviendra. C'est vrai qu'on a toujours l'image, je le disais, d'un hacker qui a le cheveu gras, qui a un maxi coca, qui est au fond d'un garage, tout seul sur son ordinateur en train de pianoter jour et nuit. On est loin de tout ça maintenant, non?
Alors, on est loin de tout ça, même s'il en existe encore quelques-uns hein, sous cette forme-là. Mais en tout cas, on a vraiment aujourd'hui, sans exagérer, du 7 à 77 ans, avec des bandes vraiment organisées, avec un chef, avec des petits lieutenants, avec des codeurs, on a même des graphistes, on a même des personnes qui s'occupent d'un service après-vente entre les pirates et l'entreprise potentiellement infiltrée. Voilà, on est vraiment aujourd'hui devenu dans un commerce divers et varié, qu'il soit d'ailleurs, on en parlait, hein, politique, qu'il soit religieux, qu'il soit tout simplement vraiment financier. Tout ce petit monde-là, en plus, a inventé ce qu'on appellera le marketing de la malveillance. Parce que ce qui est complètement fou, moi ça va faire bientôt 30 ans que je travaille sur ce sujet, aujourd'hui ils communiquent, ils n'ont plus peur de faire de la pub, ils n'ont plus peur de même faire des concours, donc c'est pour dire.
À chaque fois que vous parlez, je reste un peu interdite, c'est la réalité Jérôme Billois, c'est-à-dire qu'on est dans un monde complètement parallèle.
Oui, alors un monde parallèle sur le côté cybercriminalité, effectivement aujourd'hui il y a des vrais PME du cybercrime et j'adhère complètement à ce que disait Damien, des structures très organisées, du marketing, etc. Là on est encore à la limite, si vous voulez, avec un peu l'image du hacker historique. Alors il faut voir que hacker peut avoir aussi un sens positif, hein. Moi j'aime mieux parler d'attaquant ou de pirate. Après ça c'est une partie du spectre, le spectre vraiment criminel. Ce qu'il faut voir de l'autre côté, c'est que vous avez des gens en uniforme, des milliers de personnes qui sont reliées à des services des États ou à des services de l'armée ou du renseignement, qui attaquent sur commande de gouvernement, et ça dans tous les pays du monde. Donc on a vraiment un spectre d'attaquants, de l'adolescent qui se bat pour une cause, et effectivement qui peut être dans son garage avec son coca, comme c'était bien évoqué, jusqu'au militaire plus haut gradé, qui décide de faire de l'infiltration de services critiques pour le fonctionnement d'un pays.
Ils agissent d'où ? Quand on a un groupe, par exemple, comme Anonymous Soudan, qui s'attaque à la France, comme il y a une semaine, est-ce qu'ils ont... Pardon, alors vous me dites qu'ils font leur pub, qu'ils font même des services après-vente, ils ont leur bureau, ils sont sur une autre planète, au milieu du désert.
Le groupe Conti, qui est un groupe de cybercriminels qui a été démantelé, avait justement des locaux qu'ils louaient à Saint-Pétersbourg. On voyait justement les photos des locaux. Ils avaient un service RH, un service paye qui envoyait les payes des cybercriminels, etc. Donc oui, il y a des vraies structures, des vraies PME du cybercrime qui existent.
Et il y a des grands pays de la cybercriminalité aussi ?
Alors, des grands pays de la criminalité, oui, on sait qu'il y a des pays qui n'hésitent pas à favoriser la cybercriminalité, parfois à la laisser prospérer parce que ça sert leurs intérêts, à la fois pour déstabiliser les pays cibles et aussi pour faire grandir les compétences d'attaquants qui peuvent ensuite être récupérées par les services des gouvernements.
D'accord, ok. Alors, quel pays, selon vous? Oui, ben voilà, on va y arriver. Je vais vous poser la même question, Damien. Ben, allons-y.
Je pense qu'on va être d'accord sur la liste des pays. En tout
Allez-y.
Cas, depuis un siège européen, on va effectivement avoir la Russie, la Chine, qui sont clairement remontées dans les, dans les autorités gouvernementales. Il y en a d'autres aussi. Je laisserai peut-être Damien.
Damien allez, Damien, allez-y.
Alors moi, par rapport à ce que j'en vois et ce que j'en vis, l'Amérique du Sud, il faut surtout pas l'oublier. On a des secteurs comme la Colombie et le Brésil qui ont des nids, des vrais nids de pirates informatiques, loin d'être négligés. Et l'Asie aussi, hein. On a énormément de zones comme la Thaïlande, comme les Philippines, où on trouve aussi des populations de pirates informatiques de plus en plus professionnelles.
Ah non mais attends, on est cerné quoi.
La menace elle est mondialisée, parce qu'en fait la difficulté c'est qu'il y a finalement, il y a très peu de besoin de moyens pour pouvoir attaquer.
Alors justement, on va en parler dans un instant. Comment opèrent-ils et à qui s'attaquent-ils ces pirates des temps modernes? Eh bien, on va se retrouver dans un instant. Vous étiez dans les parages ou en 2019, hein, Jérôme Bilois, quand le groupe M6 a été victime d'une cyberattaque? Genre d'expérience qu'on n'oublie pas. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Si vous voyez ce texte, vos données ne sont plus accessibles. Nous les avons cryptées, ne perdez pas votre temps. Envoyez $300 en bitcoins à l'adresse suivante.
Toujours en compagnie de Damien Bancal et Jérôme Billois pour pénétrer le monde de la cybercriminalité, une délinquance des temps modernes qui s'est considérablement professionnalisée. On l'a entendu ces dernières années, faisant de la France l'une de ses cibles du moment. Messieurs, avant de voir comment les pirates opèrent, je voudrais que l'on parle de certaines actions. Vous évoquiez il y a un instant les attaques d'hôpitaux. C'est vrai que cette criminalité, Jérôme Billois, elle a plein de visages différents, mais ça n'est pas la même chose d'attaquer un hôpital que d'attaquer un média, on va y revenir avec ce que l'on a vécu nous il y a quelques années, d'attaquer des services publics. Attaquer un hôpital, les conséquences de ça, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que le pouvoir de ces attaques, c'est aussi de paralyser des services tout entiers avec des malades.
Avec des malades, avec des vrais risques sanitaires, avec l'obligation, on l'a vu dans certaines attaques d'hôpital, de devoir déménager des services dans des autres hôpitaux, de faire bouger des nourrissons, de faire bouger des malades.
Donc c'est dégueulasse. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande dans ces cas-là? C'est de la fuite de données ou on demande carrément une rançon? On dit, bon, bah voilà, nous, on bloque tous vos systèmes tant que vous n'aurez pas versé,
La plupart du temps, et là où il y a le plus de risques, c'est justement quand les systèmes sont bloqués et qu'en même temps, il y a un vol de données et qu'au-dessus de tout ça, il y a une demande de rançon pour que ça reparte. Et c'est là où ça prend le plus de risques parce que, voilà, pour la prise en charge des patients, pour le suivi des dossiers médicaux, pour tout ce qui va autour de ça, il y a des vrais risques.
Ah ouais, zéro respect. Moi, je trouve ça absolument nauséabond. Ils savent ce qu'ils font, Damien Bancal.
Ce qui est terrible, c'est que non, pas tout le temps. On a affaire à des espèces de grands chalutiers. Vous savez, ces bateaux de pêche qui lancent leur filet dans les océans. Et bien, l'Internet, pour eux, c'est l'océan numérique. Et certains ne se contentent que de parce qu'ils ont vu. Hôpital, donc du coup il traduit, ça fait clinique. Certains disent, oh il y a tel chiffre d'affaires, donc il y a de l'argent. Non, des fois ils vont vraiment au total hasard et c'est après l'analyse des documents qu'ils ont pu exfiltrer qu'ils se disent, ça c'est la santé, ça c'est une entreprise quelconque. Et ce qui est terrible, c'est que certains pirates informatiques, comme Lockbit par exemple, interdit à ses membres de bloquer un hôpital, mais n'interdit pas de voler les fichiers pour ensuite leur demander une rançon.
Ok, donc en fait ce que vous nous expliquez c'est une histoire de chiffres. En fait c'est vrai que nous on maîtrise pas ce genre de choses, mais la clé, ce sont des numéros et des chiffres, Jérôme Billois, en fait.
Clé pour attaquer,
clé pour rentrer. C'est ça qui nous échappe.
Des attaques numériques, finalement, c'est malheureusement parfois aussi simple que de lancer une application comme sur nos téléphones et en tapant les bonnes choses pour viser les bonnes cibles, et ben ça va tester plein de capacités à rentrer. C'est un peu l'image, vous savez, du voleur sur le parking du supermarché qui va passer, qui va ouvrir toutes les portes de voiture. Et puis il y a quelqu'un qui aura oublié de fermer sa voiture. Il va prendre ce qu'il y a dedans et il repart.
D'accord.
On est vraiment dans cette approche très opportuniste de gens qui n'ont des fois pas un niveau technique exceptionnel, mais qui vont utiliser les outils des autres, d'autres attaquants plus pointus, et ils auront loué ces outils, ou alors ils seront mis d'accord pour partager le prix de la rançon après. Et donc c'est ça qui permet un passage à l'échelle, finalement, des attaques aujourd'hui.
Ça peut me permettre, en plus, le plus terrible avec ce genre de pirates informatiques, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une chance une seule fois. peut réussir de gros coups, malheureusement.
C'est ça. C'est qu'en fait, il suffit parfois qu'ils aient un accès pour tout de suite qu'ils fassent une affaire faramineuse. Comment les pirates opèrent-ils? C'est ce qu'on va expliquer maintenant à ceux qui nous écoutent. Mais pour ça, on va commencer par la fin. On va raconter ce que ça fait lorsque l'on est cyberattaqué. Ça a été le cas de notre groupe, le groupe M6, en 2019. On est parti en week-end, un vendredi. L'attaque a eu lieu durant le week-end et soudain, on en parlait en préparant cette émission. Cette entreprise de plus de 1500 salariés n'a fait qu'un corps pour pallier à l'extinction de son système. Alors nous, ça a révélé beaucoup de choses pour nous qui travaillons dans un média sur notre façon de travailler, notre dépendance au numérique, au système. On s'est mis tout à coup à servir de papier, de stylo, un peu à l'ancienne. Mais néanmoins, ça a été une période extrêmement troublante. Je voudrais qu'on raconte, parce que vous étiez dans les parages, hein, vous, Jérôme Biwa, je voudrais que l'on raconte ce que ça fait en fait quand on bosse dans un endroit et que tout à coup, on subit une cyberattaque.
Mais qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, tout s'arrête. On passe dans les couloirs, on regarde les écrans d'ordinateur, il n'y a plus rien. C'est noir, c'est bleu, mais on ne peut plus rien faire. Et donc finalement, immédiatement, on est désœuvré. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone se met à sonner. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Finalement, on est complètement désarçonné. Il y a comme un effet un peu de sidération.
On est désorienté, en fait. On ne sait plus comment faire.
Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans numérique, dans énormément de structures. Et c'est vraiment moi ce que j'observe quand on arrive sur de la gestion de crise comme ça. Et donc, la première chose à faire, c'est arriver à minima, déjà pouvoir redialoguer souvent avec les téléphones portables, parfois même en étant obligé d'utiliser des outils grand public, WhatsApp, Gmail, etc., qui sont une catastrophe d'un point de vue cybersécurité pour les entreprises. Mais
on n'a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'autre choix. Et donc, il faut bien y aller. Et il faut commencer à retravailler ensemble et à pouvoir petit à petit se dire qu'est-ce qu'on veut faire repartir, qu'est-ce qu'on va faire repartir. Et là, on joue effectivement beaucoup sur la solidarité des employés, des gens qui viennent aider. Tout le monde se serre les coudes. Il y a ce sentiment, voilà, d'avoir été touché en son sein.
Exactement.
Et de travailler ensemble.
Oui, c'est vrai, hein, Damien Bancal, on a vu, nous, à quel point aussi les équipes d'RTL avait du ressort, hein, je dirais, avait une forme de résilience et à quel point, et alors là pour le coup vraiment je trouve les salariés d'RTL sont des super salariés qui se sont défoncés aussi pour continuer à faire de la radio en dépit justement de tout ce qui pouvait nous bloquer parce que même les régies étaient bloquées.
C'est la solidarité est là et l'éducation, la formation, sans donner trop de secrets, une fois par an, on voit de temps en temps des messages apparaître dans les ascenseurs et ailleurs pour rappeler les bonnes méthodes de sécurisation par les mails, les mots de passe, etc. Et ça, c'est super important.
Oui, il faut être passé par là, effectivement. Ça veut dire qu'en termes de cybersécurité, quand on a été attaqué une fois, on devient plus performant ou comment elles se protègent, les sociétés, aujourd'hui, Jérôme Biwa?
Malheureusement, enfin, plutôt heureusement, tout le monde n'a pas été attaqué et quand même, les entreprises et même le grand public a acquis quand même un certain nombre de réflexes. Alors, c'est pas parfait encore aujourd'hui, hein, parce qu'on voit toujours les attaques qui se multiplient. Mais effectivement, la multiplication des attaques qu'on a connues dans les grandes entreprises, dans le grand public, a commencé aujourd'hui à permettre un début de changement sur la posture numérique et le début des investissements et le début de la connaissance des bonnes pratiques, appliquer les mises à jour, faire attention à ses mots de passe, sauvegarder ses données. Voilà, tous ces thèmes-là commencent à être connus.
Bah, tout ce qui nous fait râler dans l'entreprise, en fait. On va se retrouver dans un instant, Damien Bancal, parce que forcément, vous avez encore des choses à nous dire et à rajouter. Et puis alors, je vais vous demander, parce que votre livre Cyberattaque aux éditions Hachette, Jérôme Biwa, est aussi jalonné non seulement d'informations, mais jalonné d'expériences personnelles. Et vous allez nous raconter une affaire de dingue, c'est l'affaire Notpetya. Ce sera tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Mais si j'étais seule, ce ne serait pas pareil, bien évidemment, et beaucoup moins passionnant, puisque moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de recevoir Damien Bancal et Jérôme Biwa, qui sont spécialistes en matière de cybercriminalité et de cybersécurité, pour justement rebondir sur cette actualité de cette dernière semaine, la France qui a été victime de deux attaques d'une ampleur inédite, deux cyberattaques. En fait, ce qu'il y a de dingue, Jérôme Biwa, c'est que ce sont des attaques qui échappent finalement à ceux qui nous écoutent et qui ne maîtrisent pas le sujet aussi bien que vous ou qui n'en ont pas encore été victimes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des attaques avec des armes qui ne sont pas visibles, avec des modes opératoires qui ne sont pas prévisibles. Enfin, c'est vraiment tout un autre monde, hein.
Ces attaques qui touchent le monde numérique, et on sait que ce monde numérique, il est assez éthéré. Parce qu'on a, la partie émergée de l'iceberg, notre téléphone, notre ordinateur à la maison, on a des applications, on y accède, voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est tout ce qu'il y a derrière, tous les ordinateurs qu'il y a derrière, toutes les applications masquées qui fonctionnent derrière, et qui finalement sont ciblées par ces cybercriminels, qui savent vous taper pour aller gagner de l'argent, et pour déstabiliser les systèmes.
Moi, je voudrais savoir comment ils opèrent, Damien Bancal. Alors, on l'a dit, certains, effectivement, ont presque leur bureau, leur propre organisation, leur système et tout, mais comment on fait ? Alors, il va falloir nous vulgariser l'histoire, hein, mais comment on fait pour pénétrer le système numérique d'une entreprise ou de Matignon ? Comment ils ont fait, les mecs ?
Il y a plein de possibilités. Alors d'abord, on a la partie technique. Un ordinateur, un téléphone, un frigo, eh bien, ça a besoin d'une mise à jour. Mmh. Ça veut dire que ça a besoin d'une rustine, d'un pansement, parce que, eh bien, il y a une faille, une vulnérabilité. Bref, la possibilité par un malveillant, par exemple, de pouvoir rentrer dans l'ordinateur. Donc du coup, ils utilisent ce type de possibilité. D'autant plus qu'ils peuvent l'automatiser. Il existe aujourd'hui des logiciels, des outils qui vont chercher pour les pirates eh bien, cette fameuse porte d'entrée. Mais on a une deuxième porte d'entrée qu'il faut surtout jamais négliger, c'est l'humain. Le pirate informatique, quel qu'il soit, adore pirater les cerveaux. Pirater un cerveau, c'est quoi ? C'est lui envoyer un courrier électronique en se faisant passer pour le patron, pour l'administration fiscale, et espérer qu'il clique soit sur le lien qui est proposé, soit sur le fichier joint. Toujours est-il lui faire une action qui naturellement, s'il réfléchissait un petit peu plus, il ne le ferait pas. Mais voilà, le pirate informatique a malheureusement aussi une énorme force, c'est qu'il va jouer sur la précipitation, sur la méconnaissance, et donc ben, si ça fonctionne, tant mieux pour lui, malheureusement.
Si je clique, alors là on est sur une autre cybercriminalité, hein, mais si je clique sur ce lien, Jérôme Biwa, en fait j'ouvre ma porte. Grosso modo, c'est à peu près ça.
L'image est bonne. Ça consiste vraiment, quand on va cliquer sur un lien dans un message frauduleux, ça peut aller jusqu'à donner le contrôle de son ordinateur ou de son téléphone au cybercriminel. Donc voilà, après, une fois qu'il est dessus, bah, il peut prendre les données, il peut aller accéder au site web sur lequel vous accédez.
Et je le vois pas.
Et vous le voyez
pas
forcément.
Je le vois pas, il est sur mon ordi, où là, quand on a été, la boîte a été victime d'une cyberattaque, on n'accédait plus à nos ordinateurs, mais sinon, on les voit pas agir. C'est-à-dire qu'ils avaient, c'est pas une souris qui se balade sur mon écran et qui va ouvrir des fenêtres.
Non, l'objectif pour eux, c'est effectivement d'être le plus discret possible.
Oui.
Voilà. Et finalement, faire le moins de vagues possible pour essayer de capter le maximum d'informations jusqu'au moment où ils décident de lancer l'objectif final de l'attaque. Et si l'objectif final de l'attaque, c'est tout bloquer pour avoir une rançon, là, vous allez le voir tout de suite. Parce que tout va s'éteindre.
Et là, d'accord, tout s'éteint. Mais dans les films, on voit parfois, Damien Bancal, des messages avec une tête de mort, une grosse voix qui dit des messages hyper flippants.
Ça existe aussi, ça. Les ordinateurs qui clignotent avec des têtes de mort qui tournent dans tous les sens, voilà. Ça existe aussi. Mais effectivement, la discrétion est quand même gage d'efficacité chez les vrais professionnels, de la malveillance, même si, mettre 2-3 logos, ça peut fonctionner parce qu'ils se transforment aussi en marque. On a des groupes de pirates informatiques aujourd'hui qui sont devenus de véritables marques avec logos, etc., etc. Mais plus ils sont discrets, plus ils peuvent rester longtemps et plus longtemps ils peuvent espionner.
Bon, je voudrais qu'on raconte une histoire maintenant, si vous le voulez bien. Jérôme Biwa, dans votre livre « Cyberattaque aux éditions Hachette », vous parlez de l'affaire NotPetya qui va faire paniquer le monde entier en 2017.
Banque, entreprise, le site du gouvernement et même la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est en Ukraine que la cyberattaque a fait le plus de dégâts.
En France, on peut parler de Saint-Gobain, d'Auchan. Il y a également une banque nationale qui a été touchée. Il y a certainement beaucoup d'autres entreprises françaises qui sont infectées, mais la plupart du temps, elles préfèrent éviter que leur nom soit rendu public.
Alors, NotPetya, qui, je le disais, fera paniquer le monde entier en 2017. Vous étiez, vous, là, vous avez agi, Jérôme Biwa. Mais alors, c'est une véritable course contre la montre. Donc, de quoi s'agissait-il ? Comment avez-vous géré cette crise ? On va se retrouver dans un instant avec vous et avec Damien Bancal sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Avant de parler d'un groupe qui s'appelle les Anonymous, avec vous, Jérôme Biwa, Damien Bancal, parce que je me pose toujours la question, est-ce que ce sont des sortes de Robin des Bois du numérique ? On parle de hackers, est-ce que ce qu'ils ont fait était bien, pas bien, pour qu'on n'en entende plus parler ? Pourtant, ils ont été extrêmement présents. Bref, avant d'en parler, je voudrais donc que l'on écoute une histoire. Parce que votre livre, Jérôme Biwa, nous entraîne donc dans le monde de la cybercriminalité et nous raconte aussi des cyber cyberattaque. Et moi, ce qui m'échappait complètement, je ne vous le cache pas, est devenu beaucoup plus concret à la lecture de votre livre. Donc, on est en 2017 et on va parler de l'affaire NotPetya. Qu'est-ce qu'elle a de si singulier et pourquoi est-ce qu'elle a fait paniquer la planète entière ?
NotPetya, c'est une affaire qui a commencé en Ukraine. Parce qu'on avait un éditeur d'un logiciel de comptabilité, alors on a l'impression d'avoir quelque chose de complètement inoffensif, qui a été piraté. Ça a été prouvé après par la Russie. Et finalement, cette attaque qui partait d'un petit logiciel de compta en Ukraine a touché le monde entier. Finalement, elle s'est répandue comme une traînée de poudre parce qu'elle avait été conçue pour rebondir d'un ordinateur en un autre. Et elle a réussi à toucher des grands noms comme le laboratoire Merck pharmaceutique, comme FedEx. On avait cité Saint-Gobain tout à l'heure. Et elle avait un pouvoir de destruction absolument incroyable. Moi, dans l'affaire où je suis intervenu, il y a 65 000 ordinateurs qui ont été détruits en une heure. Donc là, on n'est même pas en train d'essayer de rattraper la course. Non, on arrive, le mal est fait. Et la course, c'est plutôt d'arriver très rapidement à redémarrer tous ces ordinateurs-là. Et c'est ce qu'on avait fait. Nous, on était une équipe de 40 personnes qui, pendant 3 semaines, ont travaillé 24/7 d'arrache-pied pour redémarrer finalement une entreprise, tout réinstaller et tout faire resécuriser en urgence.
Donc ça veut dire que vous êtes dans vos services. Voilà, ce sont des services qui sont dédiés à ces interventions donc de toute urgence. Et puis, on vous passe un coup de fil et on vous dit...
Ah, tout est à plat.
Tout est à plat. Mais alors, comment on réanime... Alors, un truc déjà, qui est à plat, non, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'on crée des circuits secondaires
Alors l'enjeu, c'est d'aller très vite. Ouais. Donc, déjà, nous, on arrive avec nos propres ordinateurs qui, heureusement, n'ont pas été touchés parce que voilà, c'est ceux de la structure qui a été touchée. Et donc là, on arrive, et ben, on commence à réinstaller des ordinateurs. Vous l'avez peut-être fait chez vous, quand vous avez eu un problème. Ben, à l'époque, on avait même repris des CD, et puis on clique, et puis on avance, etc. Et on fait ça petit à petit. Et quand on en a assez, et ben, on peut arriver à massifier, c'est-à-dire à automatiser la réinstallation des ordinateurs et la relance de toutes les applications de l'entreprise. Mais c'est un travail, je vous disais, on avait été 40, mais il y avait plus, presque de 500 personnes qui ont travaillé pendant 3 semaines dans cette entreprise-là pour faire tout repartir.
Voilà, donc c'est un travail titanesque. C'est intéressant ce que vient de nous expliquer Jérôme Biwa, Damien Bancal, c'est que lorsqu'il y a une cyberattaque, bah, le mal est fait. On est obligé de constater les dégâts.
La problématique, elle est là, c'est que maintenant, les pirates informatiques ont une fâcheuse tendance, c'est que ils vont trouver cette fameuse porte d'entrée, ils vont donc rentrer dans le château fort, qui est normalement protégé, ils vont commencer à visiter. On est vraiment dans cet état d'esprit avec des outils ou eux-mêmes qui vont regarder les dossiers, qui vont regarder les choses les plus intéressantes dans leur état d'esprit. Un exemple très concret, on a des groupes de pirates informatiques qui disent très clairement ne s'intéresser que aux dossiers portant sur les ressources humaines, la DRH ou la comptabilité. Donc déjà, ça donne une petite idée. Et puis ensuite, eh bien, ils collectent, ils trient, ils analysent. Voilà, la problématique, c'est que quand on a 65 000 machines, et j'imagine même pas les remettre à jour, oui, ben voilà, les pirates informatiques, ils sont dans la place. Et une fois qu'ils ont vraiment décidé de se montrer, il est vraiment trop tard.
Voilà, alors c'est ça en fait, Jérôme Biwa, ce que vient de nous expliquer Damien Brocal, c'est que quand ils rentrent dans le château fort, ils peuvent se balader genre pendant 3 semaines, on ne sait pas.
Oui.
C'est ça. En fait, ils visitent, ils prennent leurs œuvres d'art, leurs trucs, mais en fait, ils sont en train de voler des choses, mais on ne s'en rend pas compte en temps réel.
C'est très difficile de le voir et justement tout leur enjeu c'est de ne pas être détecté. Donc les plus futés, souvent ceux liés à des gouvernements, vont vraiment avancer petit pas par petit pas pour justement faire le moins de bruit possible, comme ferait finalement dans une affaire d'espionnage classique quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, il va regarder, il y a une caméra là, je l'évite, là je passe vite là pour pas me faire avoir par le garde qui passe, etc. C'est la même logique dans l'espace numérique.
Allez, on écoute ce message, c'était juste après les attentats du 13 novembre 2015.
Hier. Vendredi 13 novembre 2015, notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22h par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. C'est pourquoi les Anonymous du monde entier vont vous traquer. Oui, vous les vermines qui tuent les pauvres innocents. Oui, nous allons vous traquer. Comme nous avons pu le faire depuis les attentats de Charlie Hebdo.
Les Anonymous qui promettaient alors une traque sans relâche à l'État islamique. Je me souviens avoir entendu ce message comme sûrement bon nombre de nos auditeurs. La question déjà que j'ai envie de vous poser, c'est ces fameux Anonymous, on va en parler après, on va essayer de les décrire, mais est-ce qu'ils ont tenu leurs promesses en fait, Jérôme Biwa ?
Ils tiennent rarement leurs promesses. Ils ont essayé, il y avait quand même eu de la remontée d'informations sur qui était derrière un certain nombre d'attaques, etc.
En fait, ce qu'ils promettaient, c'était une vague de cyberattaques contre l'État islamique sans précédent.
Voilà, il y avait eu quelques révélations de noms, quelques recherches, mais qui bien souvent étaient d'une fiabilité trop faible, même dans les informations qui étaient remontées.
D'accord. Les Anonymous, c'est bien ou c'est pas bien, en fait, Damien Bancal? Qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Pourquoi est-ce qu'on en entend moins parler aujourd'hui?
Ah, je vais pas être tendre en plus, hein. Il faut savoir qu'au tout début...
J'arrive pas à me positionner, je ne sais pas. Ils ont un côté Robin des Bois, ils sont solidaires des grandes causes. Et puis, en même temps, on me dit, moi, qu'ils font des cyberattaques. Je sais pas comment me positionner.
Au tout début, on avait véritablement certaines populations qui voulaient apporter un message de liberté et surtout... Allez, on va dire protéger soit des journalistes, soit des personnes qui étaient poursuivies par la justice, par des grandes vedettes du cinéma, par exemple, qui ne souhaitaient pas être montrées en photo ou vidéo. Malheureusement, de fil en aiguille, on s'est surtout retrouvé avec des internautes lambda ou des petits pirates, hein, je vais les appeler comme ça, moi je ne mâcherai pas mes mots sur le sujet, et qui avaient trouvé cette occasion pour faire parler soit un petit peu d'eux, hein, sous une signature Anonymous, qui faisait énormément de bêtises en amont, qui faisait aussi énormément de bêtises après avoir aidé les Anonymous, et c'était aussi un moyen pour eux de se dire, eh bien si jamais je me fais arrêter, ça sera un moyen de dire aussi que j'ai fait ça pour la bonne cause.
D'accord.
Voilà, c'est un peu compliqué, c'est devenu très marketing, c'est, pour preuve, hein, certains avaient même racheté la marque Anonymous pour en faire des t-shirts et des objets. Voilà, aujourd'hui on en parle beaucoup moins parce que, ben voilà, hein, à la base Anonymous, il n'y a pas de chef. À la base, Anonymous, c'est vous, moi, nous. À la base, c'était pour un moyen de manifester et surtout de montrer, eh bien, des choses qui n'avaient strictement rien à faire sur les internets. Voilà, c'est Anonymous.
Bah, moi, je les voyais comme des vengeurs masqués. Voilà, et ça n'est pas le cas. Et je pense effectivement, quand je vois votre visage, Jérôme Biwa, que vous allez nous démystifier les Anonymous dans un instant. On va se retrouver tout de suite. Et puis, messieurs, on rentre dans une période là assez délicate. On parlait justement la semaine dernière de la sécurité des Jeux Olympiques. Eh bien, est-ce qu'il va falloir effectivement se dire que l'on rentre dans une période de vulnérabilité pour notre pays en matière de cybercriminalité? On va vous poser la question dans un instant. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
On va parler des Jeux Olympiques qui se profilent. Mais pour l'heure, Jérôme Biwa, parlez-moi donc des Anonymous. C'était quoi leur dernier coup, d'ailleurs?
Alors le plus célèbre, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière en France, les Anonymous Soudan,
oui,
qui
alors,
ont récupéré
ça m'a
ce mot-clé des
alors,
Anonymous.
Voilà.
En fait, Anonymous n'appartient à personne. Anonymous, tout le monde peut prendre cette bannière, l'utiliser à bon escient pour ceux qui le prennent comme ça, pour la défense d'un certain nombre de causes, comme à très mauvais escient. Et donc, en fait, ce sont des groupes auto-organisés qui se mobilisent au fil de l'eau en fonction de grands mouvements à l'échelle de la planète, mais qui, finalement, ne voient pas avoir une organisation très claire. Ils n'ont pas de chef, comme c'était évoqué. Ils n'ont pas de colonne vertébrale dans leur idéologie.
Est-ce qu'il peut y avoir, en matière de cybersécurité, des Anonymous ou des hackers repentis? Est-ce que finalement certains changent de camp et participent à la sécurité en matière de...
On l'a vu de nombreuses fois, effectivement, des personnes repenties, voire inquiétées par la justice et qui justement négociaient aussi le fait de donner certains de leurs secrets, alors sur leur équipe ou sur leurs outils, qui pouvaient être aussi très utiles pour éviter quelques années de prison. Et puis une fois les peines purgées, on en voit effectivement certains qui peuvent revenir et être embauchés. C'est plus monnaie courante aux États-Unis qu'en Europe et en France en particulier, mais ça peut arriver parfois effectivement que ça arrive.
Est-ce qu'on les arrête facilement? Moi j'ai l'impression qu'ils sont insaisissables. Ça, en fait, Damien Bancal, ces cybercriminels.
C'est la problématique, c'est qu'on a une jolie terre, une jolie planète, et qu'ils peuvent être n'importe où, et surtout dans des législations qui sont pas vraiment regardantes, hein, sur les aspects cybercrimes. Mais on a de plus en plus d'autorités, qu'elles soient de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, avec des gens compétents, avec de plus en plus d'hommes et de moyens, même s'il en manque toujours, hein, face à des pirates informatiques. Et on l'a vu ces derniers mois avec un certain nombre d'arrestations, que ce soit en France ou de par le monde. Mmh. Un exemple très concret, hein, l'un des pirates arrêtés au Canada en 2022, qui vient d'être jugé là, hein, qui vient de prendre 4 ans de prison au Canada, et il s'en prendra beaucoup plus aux États-Unis dans quelques semaines, avait été arrêté en coopération avec le Canada et la France, par exemple.
Jérôme ?
Oui, et la gendarmerie et la police ont participé à de nombreuses opérations de démantèlement. Le groupe Logbit, très récemment, qui avait vraiment fait des dégâts en France vraiment importants. Il y a eu une vraie coopération entre les différentes forces de police, portée cette fois-ci plutôt par les Anglais. Mais ça change. On se souvient aussi d'une opération de la gendarmerie il y a quelques années, qui avait été une des premières opérations au monde, qui consistait à aller nettoyer les systèmes touchés par les cybercriminels depuis la France. C'est-à-dire qu'on n'était pas juste dans la logique où je ferme ma porte, le pont-levis. Là, on a été aider les gens n'importe où dans le monde grâce à cette opération qui était techniquement très pointue.
Ils doivent être sur les dents là, à l'approche des Jeux Olympiques. Ce serait quoi le pire qui pourrait nous arriver en période de JO, Damien Bancal, en matière de cybercriminalité ?
Oh ben, il faut savoir déjà qu'il y a déjà eu énormément d'attaques avant, hein. On se souvient par exemple des Jeux Olympiques en Corée du Sud et autres. Ben, c'est de tentatives de blocage d'ordinateurs, c'est potentiellement avoir accès à des portiques d'ouverture de portes, c'est tout simplement trouver, comme on a pu le voir à Pékin par exemple, eh bien non pas l'attaque directe des Jeux Olympiques, mais des sites parallèles sur lesquels eh bien les activistes avec un grand H cette fois-ci avaient passé des messages. Tout est possible. Voilà, ça reste un grand rendez-vous médiatique à l'échelle du monde, hein, soyons très clairs, hein, un peu comme le Super Bowl il y a quelques semaines, qui a aussi vécu des cyberattaques, mais les gens s'entraînent autour, et j'entends par là ceux qui défendent s'entraînent. Donc du coup, des attaques, il y en aura plein, ça c'est sûr, des réponses et des défenses aussi, heureusement.
Jérôme ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est finalement les JO, l'enjeu numéro un absolu, c'est la sécurité. Ouais. Sécurité des biens et des personnes, ouais. Puis aussi l'image de la France. Et donc finalement, en cyber, l'image de la France peut être plus facilement attaquée. Parce que ça peut être le cœur des JO qui vont essayer d'être attaqués. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Jeux Olympiques marchent un peu comme un oignon. Au cœur de l'oignon, vous avez vraiment l'épreuve sportive, le chronométrage, l'affichage du résultat. Et puis à côté, vous avez ce qui permet aux gens de venir assister aux Jeux Olympiques. Les stades, le contrôle d'accès, le fait de pouvoir voir les médias qui vont retransmettre l'émission. Et puis ensuite, autour encore, on a les transports, l'eau, l'électricité, etc. Toutes ces couches-là, elles sont bien connues au niveau de l'État. Et il y a beaucoup d'actions du gouvernement, du CIO et du comité d'organisation des Jeux Olympiques pour sécuriser tout ça. Ce qui reste, après, c'est ce qui est en dehors, et c'est peut-être ça qui est le plus vulnérable aujourd'hui. Oui. C'est des billets frauduleux pour le grand public, c'est des attaques qui vont viser des entreprises qui ne sont pas directement parties des JO, mais on va essayer de modifier leur site web, on va essayer d'arrêter leurs opérations, finalement pour faire beaucoup de bruit, pour mettre une ambiance de déstabilisation, une ambiance de défiance vis-à-vis des JO, et nuire par rebond à l'image de la France.
C'est intéressant parce qu'en vous écoutant, messieurs, je me disais que dans l'arsenal pour préparer un événement tels que les Jeux Olympiques, eh bien depuis peut-être quelques décennies, il y a aussi tous les moyens qui doivent être développés pour la cybersécurité, en plus de tout le reste. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque part l'une des grandes questions maintenant majeures de notre époque moderne. Et je vous remercie l'un et l'autre d'avoir répondu à nos questions parce que c'était passionnant. On a eu l'impression tout à coup d'ouvrir une porte qui nous est d'ordinaire fermée, ou en tout cas d'ordinaire on ne comprend pas grand-chose. En tout cas, ce qui est mon cas, je parle pour moi. Je voudrais vous remercier Damien Bancal pour votre
Merci.
Éclairage. Je rappelle donc votre blog zataz.com et puis on vous entend régulièrement sur cette antenne. Vous vouliez nous expliquer un truc sur la cybersécurité. Il y a des entraînements là hein, en ce moment aussi.
Oui, alors justement on parlait des Jeux Olympiques à Lille, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un entraînement avec les transports publics, les hôpitaux, le grand stade pour justement se préparer à une cyberattaque parce que qui dit cyberattaque pourrait avoir des redondances ensuite physiques. Donc du coup il y a eu un entraînement pendant plus de 2 heures face à des pirates et les pirates ont perdu.
Eh bien voilà. Ah bon, bah donc ça veut dire qu'il y a déjà de l'avancée en matière de cybersécurité. Merci beaucoup Damien Bancal. Jérôme Billois, merci beaucoup. Je conseille votre livre Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale et c'est aux éditions Hachette et c'est passionnant. Merci à vous.
Merci à vous.
À bientôt sur RTL. Merci à toute l'équipe de Jour J, mes hackers des temps modernes. Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. C'est celui qui appuie sur le plus de boutons, Marc Bisset. On ne sait pas là ce qu'il est en train de pirater. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée sur RTL.